Comme vient de le dire notre ami, si depuis un siècle les études scientifiques sur la Bible ont permis de faire justice d'un certain nombre d'erreurs et de sottises, c'est parce que depuis deux siècles, voire trois, ces sottises avaient été formulées par des mouvements de pensée issus de la Renaissance et surtout de la philosophie des Lumières. Je pense surtout en tant que professeur de lettres, bien évidemment à Voltaire et aux hommes de l'encyclopédie qui, d'une manière insidieuse ou ouverte au demeurant, bénéficiant d'ailleurs de la lâcheté du milieu ambiant, voire des autorités, attaquaient la Bible d'une manière déloyale. J'appelle déloyale la manière goguenarde, la manière méprisante et méprisable. Lorsque l'on suit Voltaire et lorsque l'on suit les successeurs de Voltaire, tel M. Homais que Flaubert a si bien décrit dans Madame Bovary, la Bible n'est qu'un ramassis de fadaises et de plus de fadaises immorales. Et il fallait bien du courage pour un catholique du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle pour maintenir sa foi, et non seulement sa foi, mais l'explicitation officielle au fort externe de sa foi dans l'inhérence biblique. Donc c'est bien le sujet qui nous préoccupe ce matin. La Bible a toujours été tenue par l'Église catholique romaine, non seulement pour la parole de Dieu au plan théologique, mais aussi pour une parole véridique, pour une parole exacte et, pour employer le terme technique à nouveau, inhérente dans des domaines qui pourraient paraître à première vue tout à fait étrangers à la foi. Et je vais essayer à très grands traits, comprenez bien que je ne peux faire ni un catalogue, et encore moins, ni un catalogue implicite, ni un catalogue explicite, ce ne sera pas un catalogue, ce sont des coups de sonde dans ce que ce dernier siècle scientifique a apporté à la connaissance de la Bible, avec des zones de lumière et des zones d'ombre, et justement, je serai amené, à fournir disons, une attitude psychologique ou spirituelle face à l'ombre autant que face à la lumière. Un regard superficiel pourrait penser, par exemple, que dans ce dernier siècle, l'Église a répondu au coup pour coup aux attaques contre la Bible. Au coup pour coup, c'est-à-dire en retard d'un train, finalement. Et pas seulement dans le domaine biblique. Là, j'ouvre une perspective presque d'apologétique. Par exemple, face à la naissance de l'astronomie moderne, la Bible serait revenue tardivement sur ses positions anti-galiléennes. Face à la géologie moderne, elle admettrait maintenant le symbolisme des six jours de la création. Face au transformisme, elle poserait des balises sans vraiment condamner, gênée en quelque sorte aux entournures. Mais même dans les domaines extra-bibliques, face au mystère de la vie, l'Église aurait été contrainte d'affiner la notion de mort clinique, par exemple. Et d'où toutes les questions d'éthique médicale aujourd'hui. Face à la fécondation in vitro, pour prendre des exemples extrêmement modernes, l'Église aurait été contrainte, mais bien tardivement, en quelque sorte, de préciser la doctrine des jumeaux homozygotes, par exemple, et de leur animation. Et de la même manière, analogiquement, mais antérieurement, face à la Bible et à d'apparentes contradictions avec la science ou d'apparentes absurdités, elle aurait créé, mais bien tardivement, en traînant les pieds, une doctrine des genres littéraires ou des apparences. Bref, un reproche fait par des intellectuels, même catholiques, à l'attitude de l'Église face à la Bible, c'est d'avoir en quelque sorte rectifié le tir. Et je tiens, dans cette introduction, à montrer combien cette démarche est déjà très injuste en elle-même. Parce que si l'Église rectifie, entre guillemets, le tir de sa doctrine, mais que dire de la science? La science n'est rien d'autre depuis les premiers scientifiques ioniens, n'est-ce pas, la science grecque, voire babylonienne, la science n'est rien d'autre qu'une rectification continuelle et permanente. Et donc, d'un point de vue purement humain, il est absolument indu de reprocher à l'Église une adaptation à de nouvelles conditions, alors que l'essence même de la science n'est rien d'autre qu'une adaptation à de nouvelles nouvelles conditions. Il en va un peu de la doctrine de l'Église concernant la Bible, comme de la doctrine concernant les dogmes et leur développement homogène. Il n'a jamais été question de reprocher aux hommes du Moyen-Âge de ne pas croire à l'Immaculée Conception, et la définition du dogme est venue en son temps, lorsque la réflexion théologique a permis qu'elle fût mûre. Eh bien, dans le domaine biblique, je crois, et c'est pour ça que j'insisterai à côté d'aspects purement formels, j'insisterai sur les aspects proprement théologiques, dans le domaine biblique, la question est exactement du même ordre. Un certain nombre de problèmes ne se posaient pas au Moyen-Âge. Un certain nombre de problématiques n'étaient pas formulées, n'étaient pas intelligibles. Donc l'Église n'avait pas à proposer des réponses anticipées. Hein. Qu'eût été une réponse anticipée au problème de l'évolution au IVe siècle après Jésus-Christ ? Hein. C'est une sottise intégrale que, rien que de poser la question. Donc, ceci pour rassurer, d'une manière apologétique, les chrétiens qui trouveraient, qui auraient le sentiment, à cause d'une propagande malhonnête, qu'il y a eu un changement dans la ligne de l'Église. Il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu d'évolution dans la doctrine de l'Église concernant la Bible. À la première heure, chez les pères, comme aujourd'hui, l'Église tient toujours la Bible pour inhérente. Et non seulement, j'insiste sur ce point en matière de foi et de mœurs, bien évidemment, mais aussi dans le domaine de l'histoire et dans le domaine de toutes les expressions de la réalité sensible et visible. C'est un point qu'il faut tenir absolument comme de foi. Il a été répété constamment par les magistères, même à l'époque moderne, si j'ose dire, même. Et cette doctrine biblique, donc, ce développement homogène de doctrine biblique, nous en avons vu en ce dernier siècle par la permission de la Providence, dans plusieurs documents impérissables, dont le premier fut l'encyclique de Léon XIII, Providentissimus Deus, puis celle de Benoît XV, Spiritus Paraclitus, et enfin, le dernier monument, j'allais dire, non entaché de certaines tendances de l'Église moderne, peut-être, Divino Afflante Spiritu de Pie XII, qui est un chef-d'œuvre, j'insiste beaucoup sur ce point, chaque mot est pesé, chaque mot est écrit avec une intelligence supérieure et une finesse et une subtilité qui emportent l'admiration, sans préjuger bien évidemment de son caractère doctrinal, théologique, infaillible, puisque le Saint-Pape Pie XII a voulu mettre au point ce qu'il fallait croire dans le domaine de l'exégèse biblique. À côté de cela, je citerai tout à l'heure l'incontournable encyclique Humani Generis en 1950 qui aborde des points bibliques, notamment concernant les premiers chapitres de la Genèse. Et l'Église a aussi parlé au XXe siècle dans les rapports de la science et de la Bible par la voix de la Commission biblique pontificale, expression de l'Institut biblique pontifical fondée dès le début du siècle, n'est-ce pas, et patronné par le Saint-Pape Pie X, pour précisément répondre à l'évolution des questions scientifiques et donner des directives aux fidèles et aux prêtres. Donc, un tout petit peu de doctrine, à nouveau, après ces préliminaires. Le texte saint est inhérent de par la foi de l'Église. Mœurs, foi, mais aussi histoire et questions d'ordre sensible. Seulement, inhérent ne signifie pas forcément que le sens de la Bible est obvi. Le scripteur, l'auteur inspiré, préservé de toute erreur, peut très bien parler, et l'Église l'enseigne, par exemple, selon les apparences. Selon les apparences, exemple admis communément par les théologiens, le miracle de Josué. Je reviendrai sur ce problème parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles approches de la question qui se veulent, plus scientifiques que la science moderne. Mais le consensus du dernier siècle était que, dans le miracle de Josué, comme à Fatima, le soleil s'arrête réellement pour ceux qui l'observent. Et les théologiens et les papes ont parfaitement admis comme catholiques l'idée qu'un grand nombre de choses dans la Bible sont une expression du sens commun. Nous disons le soleil se couche, le soleil se lève, et personne ne dit vous vous trompez, alors même que le mouvement de la Terre par rapport aux astres explique ce mouvement. Le pape Pie XII dans Divina Fontes Spiritus insiste beaucoup aussi sur la connaissance de la culture linguistique des peuples du Moyen-Orient, et qui est une forme d'apparence aussi en quelque sorte. Lorsque il est dit mille fois dans les livres historiques que tel roi rasa la ville et passa tous ses habitants au fil de l'épée, il y aurait erreur s'il y en avait un seul qui avait échappé. Bon, ce qui est une sottise, passer tous les habitants au fil de l'épée est une façon de parler littéraire. Et aussi accessoire que puisse paraître mon exemple, il a instantanément de multiples applications dans les domaines similaires. Lorsqu'il est dit, il y avait un jour un homme qui... On a considéré pendant des siècles que c'était de l'histoire, et c'est peut-être de l'histoire. Mais il n'est pas interdit, avec la connaissance énorme que nous avons maintenant de la littérature orientale, d'y voir un mode littéraire, un genre littéraire de type non pas mythique, ce n'est pas le terme qui convient, les juifs diraient midrashique, mais de type fable morale. À user, bien évidemment, à utiliser avec prudence, mais nous ne pouvons pas tout à fait l'exclure. Je pense par exemple que dans le livre de Jonas, il est dit, je ne porte pas de jugement escalitaire sur la question, mais juste un passage, il est dit au livre de Jonas, que tous les habitants de Ninive firent pénitence et revêtirent un cilice, y compris les animaux et les bêtes de somme. Bien, il n'est pas interdit de penser qu'il y a une ironie sacrée de l'auteur sacré. Par exemple, il est dit que parut un édit de César Auguste ordonnant de recenser toute la terre. J'ai entendu de mes oreilles de mauvais esprits hyper traditionnalistes disant que toute la terre, y compris les papous, y compris les gens de l'Amérique, puisque c'est dans le texte saint, toute la terre. Mais nous savons très bien que toute la terre est une façon de parler pour la terre habitée sous juridiction romaine. Vous voyez, l'exégèse demande, un peu comme saint Vincent de Paul disait que la charité présuppose l'intelligence, l'exégèse présuppose l'intelligence. Et les papes ont toujours considéré que Dieu accordait la grâce à proportion, en quelque sorte, de l'intelligence au docteur, et c'est pour ça qu'il est recommandé, évidemment, la science humaine dans le domaine biblique. J'aborderai donc mon sujet d'abord d'un point de vue strictement chronologique, si j'ose dire, et historique. L'Ancien Testament et l'Histoire, puis le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, j'aborderai des aspects historiques, des aspects scientifiques, des aspects philologiques, et je ferai de même dans le Nouveau Testament. Et par des coups de sonde, j'essaierai de laisser entendre qu'à côté de vérifications authentiquement historiques, il y a une latitude raisonnable d'interprétation fidèle au magistère le plus récent de l'Église. Dans le domaine de l'archéologie biblique, pourquoi les anciens, je veux dire par là les Voltaire ou les Renan, ironisaient-ils sur tant de points obscurs de l'histoire biblique? Pour la bonne raison qu'on n'avait point d'autre témoignage que la Bible et son texte seul. La Bible contenant des miracles, comme disait Renan, le miracle est impossible. Eh bien, par définition, ce qui accompagne historiquement les miracles doit être aussi sans doute impossible. Il y avait une corrélation. Or, la grande révolution du XIXe siècle, c'est l'archéologie du Moyen-Orient. D'abord celle de Champollion, vous la connaissez, qui ressuscite l'Égypte par le déchiffrement des hiéroglyphes, qui est une des réussites les plus spectaculaires, d'autant plus qu'elle est quasiment celle d'un homme seul, malgré les efforts des Anglais. Et puis, beaucoup moins connu du grand public, le déchiffrement de l'écriture cunéiforme, dont je dis juste un mot, juste un nom, hein, Rawlinson, le Henry Rawlinson, qui, travaillant sur une extraordinaire inscription, par exemple, le premier récit du déluge, que vous connaissez tous, l'épopée de Gilgamesh, dont la rédaction semblerait être autour des années 1600 avant Jésus-Christ, et dans lequel le juste, qui s'appelle Utnapishtim, n'est-ce pas, est prévenu par les dieux de construire un bateau et d'échapper à la colère qui vient. Les différences sont très sensibles avec le récit biblique, dans la forme du bateau et dans les motifs, puisqu'il semblerait que la version originale du récit mésopotamien soit que les dieux étaient indispensables indisposés par le bruit que faisaient les hommes. Ils ne pouvaient pas dormir et c'est pour cela qu'ils ont voulu les détruire beaucoup plus que pour des raisons morales. Alors, quand on a découvert ces récits, dans un premier temps, comprenez-moi bien, on a tendance à se dire, mais alors la Bible n'a pas l'originalité. Et le mécréantisme militant y a vu quelque chose contre la Bible. Mais à la réflexion et avec le temps qui décante tout, la question se pose exactement à l'envers. Voilà une tradition qui est attestée dans toutes les civilisations du Moyen-Orient, et les ethnographes ensuite, bien sûr, l'ont retrouvée dans d'autres civilisations extra-orientales. Alors pourquoi ne pas formuler l'hypothèse scientifique qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a quelque chose de factuel et d'événementiel? Et la filiation littéraire est peut-être le moyen le plus paresseux de résoudre la question. Et d'aucuns, évidemment, se sont mis, mais c'est un domaine, à mon avis, bien périlleux, bien fragile, à chercher les traces objectives de sédimentation diluvienne dans le Moyen-Orient. Beaucoup plus proche, j'allais dire, de nos catégories mentales, la découverte de Ur, en Chaldée, la ville de notre père Abraham. En 1923, Leonard Woolley met à jour une civilisation qui remonte au moins à 2300 ans avant Jésus-Christ. Et là encore, des dizaines de milliers de tablettes se mettent à parler. Et à parler de quoi? D'une civilisation splendide, d'une civilisation moderne, très administrative. Et c'est une des choses qui frappera le plus, je crois, les archéologues du 19e, 20e siècle. Il y a de l'administration, il y a de l'écriture, il y a de la codification, il y a de la réglementation partout au Moyen-Orient, bien avant Moïse et même bien avant Abraham. Du coup, la figure des patriarches, qui apparaissait comme mythique, évanescente, anachronique, décalée, n'est-ce pas, se met à prendre corps. Ce n'est pas la Bible qui est prouvée stricto sensu, mais nous voyons dans quel environnement Abraham, le nomade, côtoyait des civilisations extrêmement brillantes de type moderne, disons-le. Et à ce moment-là tombent toutes les préventions, et ce sont les plus fortes chez les rationalistes du 19e siècle, toutes les préventions contre la notion de documentation écrite. Pourquoi les descendants, pourquoi les contemporains d'Abraham, puis des patriarches, puis de Moïse, n'auraient-ils pas eu eux aussi leurs archives? Tout le monde a ses archives. Tout le monde, sans exception, jusqu'à la plus petite cité, chante les louanges du moindre de ses roitelets sur tablette d'argile et ultérieurement sur papyrus. Par exemple, ce sont les Hittites, connus encore par les tablettes d'argile. Les Hittites, la célèbre civilisation d'Anatolie, dont la capitale Bogascoï a livré elle aussi tant d'archives, qui n'étaient qu'un nom. Là encore, au 19e siècle, je ne vais pas refaire l'historique, on goguenardait volontiers sur ces peuples cités par le texte saint et qui n'existaient que dans le texte saint. Mais nous avons, sous la même forme consonantique, les voyelles étant accessoires souvent dans les langues sémitiques, bien que les Hittites fussent des Indo-Européens, on voit apparaître en toutes lettres l'existence des Hattusha, des Hittites et de leur complexe civilisation. C'est par exemple l'immense, la merveilleuse stèle du Code d'Amourabi, là je change de culture, découverte à Suse en 1901 et qui fait la gloire du Louvre. Et ce Code d'Amourabi révèle toute une procédure, n'est-ce pas, de punition des crimes et délits, et qui a son pendant exact dans les lois mosaïques. Et on a encore une fois, à ce moment-là, dans un premier temps, dit, mais alors peut-être que la loi mosaïque est inspirée ou est inférieure au code d'Amourabi qui lui serait vraisemblablement antérieur. Mais la question ne se pose pas en ces termes. La question se pose dans les termes suivants. On a accusé la Bible d'être anachronique en prêtant à Moïse, n'est-ce pas, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, la capacité d'élaborer un code savant, de le formuler et de l'écrire. Mais on a des codes antérieurs et, j'allais dire, encore plus minutieux. Donc d'un seul coup, des pans d'ironie fondés sur la prétendue sauvagerie, la prétendue inculture de nos pères dans la foi, des pans entiers de cette goguenardise s'effondrent. Prenons des exemples encore plus précis. Nous avons retrouvé en Égypte, par exemple, des archives sur la fabrication des briques, avec les quantités que l'on peut fabriquer par homme et par jour avec la paille et l'argile, les quotas à tenir et même les conclusions de chantier qui disent la production a été tenue ou n'a pas été tenue. instantanément, les scènes de, des 10 commandements de Cécile B2000 cessent d'être, j'allais dire, de la littérature pour enfants et prennent corps. C'est une réalité vécue au quotidien par l'esclave hébreu des Égyptiens. Les tables de la loi, encore une fois, et j'y reviens, contestées par toute une génération post-rhénanienne, comme n'ayant pas pu être écrites par Moïse, la loi mosaïque, pas établie elle-même, au motif qu'il n'avait pas d'écriture, au motif qu'il n'avait pas d'écriture alphabétique. Or, nous savons maintenant que les premiers embryons d'alphabet, notamment les inscriptions proto-sinaïtiques, hein, remontent à 1500 avant Jésus-Christ. Il est non seulement vraisemblable que les Hébreux avaient un alphabet autour du 13e, 12e siècle, 11e siècle, mais il est impensable qu'il n'en ait pas eu. Comment aurait-il pu être extérieur au grand mouvement de création linguistique qu'a été l'alphabet dans tous les peuples sémitiques? Bon, faut-il parler de Jéricho, dont on a retrouvé les ruines et qui apparaît comme étant la plus ancienne ville du Moyen-Orient? Faut-il parler de la stèle du pharaon Merneptah, successeur de Ramsès II, qui est la première mention explicite d'Israël en dehors de la Bible? Elle est datée des alentours des années 1210, n'est-ce pas? Et c'est la première et la plus ancienne. Après, il y a un trou de 4 siècles dans la documentation. Il faut attendre le 8e siècle pour retrouver des mentions du peuple hébreu dans les textes profanes. Prenons des exemples, encore une fois, et j'en ai très bientôt fini pour cette partie purement archéologique. Ce sont des coups de sonde, vous pensez bien, n'est-ce pas? Le grand archéologue Yigal Yadin, qui a tellement travaillé sur Qumran, a découvert, par exemple, 3 portes monumentales de même type, de même forme, de même structure, dans les villes de Gezer, Hatzor et Megiddo. Donc, ce sont les villes de l'actuel Israël. Or, ces 3 portes, n'est-ce pas, ces 3 villes, sont mentionnées explicitement par le Livre des Rois comme ayant été l'objet d'une restauration officielle, d'un plan d'urbanisme, n'est-ce pas, au Xe siècle. Donc, coïncidence exacte de l'archéologie. Et ainsi de suite, j'allais dire, dans quantité de détails, nous redécouvrons quelque chose qui coïncide avec la Bible. Bon, le dernier point, par exemple, le personnage de Balthazar, le pauvre dernier roi, qui voit emporter sa royauté sur Babylone, vous savez, la main qui écrit sur le mur, Méné, Méné, Tekel, Parsi, n'as-tu pas tes jours sont comptés, tu as été pesé d'être trouvé trop léger, et en pleine orgie, il est balayé par l'arrivée de Cyrus. Eh bien, ce Balthazar était contesté par les historiens comme n'ayant jamais existé. Vous pensez, une main qui dessine sur un mur, ça ne peut être qu'un mythe. Eh bien, Balthazar a été retrouvé en 1854 sur des cylindres gravé en Irak, son nom est explicitement donné comme roi de Babylone ou comme co-régent de Babylone. Bien. Donc, dans un premier temps, on a fait justice des suspicions les plus grossières, les plus primaires concernant l'histoire de l'Ancien Testament. Mais pour autant, et c'est là qu'il faut être intelligent quand on est catholique, et nous le sommes, j'allais dire, par définition, ça ne prouve pas l'inhérence du texte saint. Ça prouve simplement que l'accusation globale de fausseté ou d'invention ne tient plus. Mais on ne peut pas philosophiquement prouver une inhérence. On ne peut pas scientifiquement prouver une inhérence. Cela reviendrait à dire que l'on a envisagé tous les points évoqués dans tous les domaines dans la Bible et que l'on a trouvé sur tous ces points une réponse scientifique absolue. Et cela, c'est une utopie. Donc, le bon Dieu sait ce qu'il fait. Il nous donne des signes forts pour nous montrer, parce que nous sommes faibles dans la foi, qu'il faut avoir confiance dans sa parole divine, inhérente, mais il n'outrepasse pas les moyens humains. Il y a des rencontres de l'archéologie et de la Bible, sans plus. Elles sont en notre faveur, il y en a qui ne sont pas en la faveur de la Bible, parce que l'archéologie n'est pas infaillible non plus. Et il faut bien comprendre, prenons un exemple très simple, que tout ce qui concerne la génération des patriarches est sujet à caution, indépendamment de la Bible, est sujet à caution dans ses chronologies. Certains scientifiques placeraient volontiers, comme c'est la tradition, si vous voulez, exégétique, Abraham au 19e siècle avant Jésus-Christ, d'autres le descendent maintenant au 15e siècle. Ça n'a aucune espèce d'importance concernant l'inhérence, car nous n'avons pas d'indication chronologique suffisante dans la Bible. Mais si les archéologues sont capables d'être en désaccord sur plusieurs siècles, alors qu'ils ne viennent pas nous faire la leçon, quand il y a un désaccord entre eux et la Bible, nous les renvoyons, j'allais dire, aux rouées, comme dirait Montaigne. Ne pas demander plus à l'archéologie que ce qu'elle peut donner, même dans les affaires humaines. Voilà, je crois, l'une des règles de bon sens, et son corollaire, c'est ne pas se laisser impressionner par les grandes gueules de l'archéologie, qui maintenant en ont sacrément rabattu, même dans les domaines très récents. Par exemple, je pense aux interprétations très malveillantes des années 50 sur Qumran, et reprenant la formule de Renan, n'est-ce pas, le christianisme est un essénisme qui a réussi. Bien. Alors, il y a un autre domaine dans lequel la Bible a été confortée par la science, c'est le domaine de la philologie pure. Confortée en quel sens? Vous savez que nous n'avons pas le même canon que les Juifs. Nous n'avons pas le même texte à la lettre près, si vous voulez. C'est le même texte, bien évidemment, mais il y a une espèce de petite concurrence dans l'établissement du texte. Et depuis Saint Jérôme, il y a toujours eu cette polémique. Qui a le bon texte de la Bible? Nous avons, par l'Église, un certain nombre de balises très précises, l'inhérence de la Vulgate en matière de foi et de mœurs, et qui fait qu'elle doit être utilisée dans la prédication et dans la théologie. Mais au-delà, le texte hébraïque est-il meilleur, est-il moins bon? Or, nous avons eu, là encore, une intervention scientifique extraordinaire en 1947. Je vais être très bref parce que ce serait très long. Ce sont les découvertes des manuscrits de la Mer Morte à Qumran. Et que nous ont révélé ces manuscrits de la Mer Morte sur le texte de la Bible? Oh, attention à l'apologétique facile. Les découvertes nous ont montré qu'à l'époque du Christ, nombreuses traditions textuelles cohabitent. Certaines sont parfaitement conformes au texte actuel de la Bible hébraïque, qu'on appelle le texte massorétique, fixé par les Juifs définitivement au Xe siècle après Jésus-Christ. Certaines de ces versions sont tout à fait conformes à ce que la Septante, la Bible grecque traduite à Alexandrie, n'est-ce pas, au IIIe siècle, nous a gardé et qui est la Bible des catholiques grecs. Certaines sont très proches de la Vulgate, qui repose sur d'anciens manuscrits hébraïques. Et puis, certains sont très proches du texte des Samaritains, pour le Pentateuque, qui sont les hérétiques du Nouveau Testament. Finalement, on serait tenté d'être un peu découragé, de dire « mais alors, les pistes sont brouillées ». Mais non, tant s'en faut. Et sans vouloir polémiquer d'une manière ironique, ces découvertes montrent une chose au point de départ, c'est que le rabbinisme a eu tort de fixer un texte né variétur au Moyen-Âge, puis de détruire les exemplaires antérieurs, puis de compter les mots et les lettres du texte hébraïque. Dans toute la Bible hébraïque, le nombre de lettres est compté, pour être sûr qu'il n'en ait pas oublié une au cours d'une copie. Cette fixation obsessionnelle de la lettre, pour pieuse qu'elle pût paraître dans un premier temps, apparaît maintenant comme anti-scientifique. Et l'Église, assistée du Saint-Esprit, n'a jamais fixé la lettre du texte saint. Elle s'est contentée de dire, par l'usage de la Vulgate, que ce texte était le texte administrativement, comme dit Pie XII, sûr pour la foi et pour les mœurs. Mais simultanément, le Concile de Trente demande qu'on révise la Vulgate. Et il souhaiterait qu'on révise aussi d'après les textes hébraïques et les textes grecs. Et Saint Pie X lui-même, le grand pape de la tradition, fait réviser le texte de la Vulgate. Et moi, personnellement, ce n'est pas très grand public comme réflexion, parce que les gens s'intéressent peu à la philologie, j'y vois une extraordinaire vérification scientifique de l'inhérence de l'Église dans son maniement de la Bible. Nous savons que la Bible est infaillible, mais nous ne pouvons pas jurer que nous possédons, dans le moindre mot, le texte sorti de la plume même des auteurs sacrés. Et de ce point de vue-là, nous sommes sages au regard de la raison comme de la sagesse divine. Mais il y a plus. Par exemple, le canon de la Bible hébraïque, repris par les protestants à la Renaissance, refuse un certain nombre de textes comme non canoniques. Vous savez, le livre de Tobie, le livre de Judith, les livres des Maccabées, refusent par exemple le livre de la Sagesse et l'Ecclésiastique. notamment aux motifs qui n'existent pas en hébreu, mais seulement en grec. Et ils n'ont existé en grec, ils n'ont existé qu'en grec jusqu'en 1947. À Qumran, on a retrouvé des fragments hébraïques de Tobie et de l'Ecclésiastique, notamment, qui prouvent que, à l'époque du Christ, le peuple juif acceptait ces textes que nous aussi nous acceptons. Ce n'est pas une preuve au sens strict, mais c'est un indice, en quelque sorte, que du point de vue de la canonicité absolument dogmatique, le Concile de Trente a défini que nos livres sont tous absolument canoniques, donc vrais, eh bien, nous avons davantage raison, que nos frères juifs m'en excusent, nous avons davantage raison, peut-être, que eux qui ont procédé à une sorte d'épuration un peu raide de livres réputés douteux. Venons-en maintenant à un domaine, et ce travail de philologie continue indéfiniment, c'est un des plus passionnants qui soit selon moi, c'est une question de sensibilité, la mise au point des meilleures leçons, des meilleures variantes du texte saint. Venons-en au point le plus difficile, le plus délicat et sur lequel je serai le plus prudent, et qui est le domaine de la science expérimentale et de la Bible, géologie, paléontologie, évolutionnisme, etc. Domaine passionnant et redoutable. Passionnant parce que passionné, les enjeux sont tels, n'est-ce pas, à en croire les adversaires en présence, il s'agit ni plus ni moins de l'existence de Dieu. Il suffit d'écouter parler un, n'est-ce pas, géophysicien, un rationaliste quelconque, le Big Bang explique tout et nous nous passons de Dieu. Mais à l'autre extrême, les enjeux sont ni plus ni moins, à les en croire, la vérité de la parole de Dieu dans ce qui est dit du récit de la création. Pour schématiser, d'un côté un scientisme hyperbolique issu du 19e siècle, la bêtise au front de taureau selon moi, et de l'autre côté un fondamentalisme pointilleux et sourcilleux qui est peut-être beaucoup plus fort aux États-Unis ou dans le protestantisme que dans le catholicisme, mais qui est très prégnant tout de même. Il s'agit bien de Bible et de science finalement, comme on le verra dans une seconde. Les enjeux sont-ils accessoires ? Je ne sais pas s'ils sont accessoires. Ce qui est sûr, c'est que politiquement, aux États-Unis, ils sont un thème de campagne. C'est assez étonnant de voir que les candidats aux élections présidentielles ou au gouvernement des États doivent fournir, selon leur électorat, une position personnelle sur l'enseignement de l'évolution du créationnisme et de la Bible dans les écoles. Ce qui est assez prodigieux pour le pays qui a le plus de prix Nobel au mètre carré. La Bible est au centre d'une question éducative aux États-Unis, ceux-là même qui ont envoyé des hommes sur la Lune. Ça a quelque chose de réjouissant, vous comprenez. Alors, dans cette problématique, vous le savez, dans nos milieux, il y a des recherches qui sont faites, il y a des personnalités, je ne nommerai personne, je me contenterai de nommer les thèses. Par exemple, des thèses, des recherches en stratigraphie vont essayer, c'est ce que j'appelle entre guillemets le fondamentalisme, vont essayer de montrer que la géologie traditionnelle n'est absolument pas avéré et que par conséquent le catastrophisme, le déluge peut très bien expliquer l'ensemble de l'apparence sédimentaire de la Terre actuelle et que par conséquent on peut raccourcir l'échelle des temps et qu'on peut la raccourcir dans des dimensions considérables puisque je connais des gens et vous en connaissez et peut-être en êtes vous d'ailleurs vous-même qui considèrent que la création du monde remonte bien effectivement à 5000 ans avant Jésus-Christ et dans ces conditions-là il s'agit bien sûr de caser aussi dans cette période de temps les squelettes des grands animaux, les dinosaures, les mammouths, etc. Donc c'est toute une révision déchirante de l'histoire telle, de l'histoire des temps géologiques telle que nous avions été habitués. Bien. Ce qui intéresse mon propos, ce n'est pas le fond du problème, je n'ai pas compétence pour en juger, bien que j'ai mes opinions personnelles sur la question. Et je n'en fais pas mystère, je suis pour les chronologies longues. Non, ce qui est un problème, c'est l'Église et la Bible dans tout cela. Y a-t-il ou non une doctrine officielle et contraignante de l'Église dans ces domaines ? Eh bien, je citerai deux textes simplement de Pie XII dans Humani Generis, encyclique ô combien théologique. Et vous verrez, les conclusions que j'en tirerai ne sont peut-être pas celles que vous attendez, ni dans un sens ni dans un autre. Pie XII dit dans Humani Generis, les 11 premiers chapitres de la Genèse, et il s'agit de cela finalement, la création. Les 11 premiers chapitres de la Genèse, quoiqu'ils ne répondent pas exactement aux règles de la composition historique telles que les ont suivies les grands historiens grecs et latins et que les suivent les savants d'aujourd'hui, appartiennent néanmoins au genre historique en un sens vrai que des exégètes devront étudier encore et déterminer un peu plus loin. Les mêmes chapitres dans le style simple et figuré, bien approprié à l'état d'esprit d'un peuple peu cultivé, rapportent les vérités essentielles sur lesquelles repose la poursuite de notre salut éternel, ainsi qu'une description populaire de l'origine du genre humain et du peuple élu. Je pourrais commenter ça pendant des heures, mais je retiens tout de même l'idée que le pape agrée, l'idée qu'il y a une différence substantielle entre les méthodes des historiens grecs et latins, que finalement il authentique, et des récits dits populaires. Donc, j'allais dire, ne demandons pas plus, selon la directive même du Saint-Père, ne demandons pas plus de point de vue scientifique au récit de la Genèse, ou alors nous outrepassons le magistère. Je veux dire, nous outrepassons le magistère, non pas si nous avons une opinion dans un sens ou dans un autre, c'est parfaitement libre, mais nous outrepassons le magistère si nous lançons des anathèmes contre ceux qui ont une autre opinion, ce qui est tout à fait différent. J'ai été pris à partie une fois ou deux par des collègues qui me disaient « Vous n'avez pas le droit de dire que ce sont des récits populaires, c'est une vision de rationaliste. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Saint-Pape Pie XII. Dans le domaine de l'évolutionnisme, et je ne suis absolument pas évolutionniste, j'admire la prudence de Pie XII. Le magistère de l'Église n'interdit pas la doctrine de l'évolution dans la mesure où elle recherche l'origine du corps humain à partir d'une matière déjà existante et vivante, car la foi catholique nous ordonne de maintenir la création immédiate des âmes par Dieu, soit l'objet, dans l'état actuel des sciences et de la théologie, d'enquêtes et de débats entre les savants de l'un et l'autre parti. Il faut pourtant que les raisons de chaque opinion, celles des partisans comme celles des adversaires, soient pesées avec le sérieux, la modération et la retenue qui s'imposent. Et Pie XII rappelle que les sources de la révélation divine imposent sur ce point la plus grande prudence et la plus grande modération, parce que de fait, les sources de la révélation divine vont, j'allais dire, dans l'apparence, d'une manière beaucoup plus forte contre l'évolution que pour l'évolution. Mais le pape Pie XII lui-même, personnellement, fondamentalement hostile à l'évolutionnisme, en tant qu'il était inspiré par le Saint-Esprit, n'a pas voulu porter un jugement imprudent et il a permis un débat légitime. Donc, voyez-vous, nous sommes à un point extrêmement sensible, surtout aujourd'hui, où nous devons nous garder dans un camp comme dans l'autre, d'invoquer la Bible et ou le magistère dans un domaine où il n'est question que de science, sauf à maintenir, comme dit Pie XII, le monogénisme, l'existence d'un premier couple ayant eu une âme directe, car c'est de foi dogmatique. Bien. J'ai entendu de mes oreilles, encore une fois, des collègues contester la thèse de Pie XII et dire explicitement Pie XII a eu tort, il n'aurait pas dû donner cette permission dans Humani Generis. Il n'aurait pas dû donner la permission du débat, comme s'il n'était pas inspiré par le Saint-Esprit, même dans les balises qu'il pose. Alors, voyez-vous, là, je sais que je touche un domaine très sensible, mais je le touche volontairement parce que nos ennemis nous regardent. Je suis très frappé de voir depuis quelques mois dans la Revue pour la Science, qui est une très grande revue scientifique internationale, qui est la version française de la revue Science America, on tire à boulet rouge sur toutes les formes de créationnisme, fondamentalisme, chrétien et ou catholique en France. Première nouvelle, nous sommes un danger, nous sommes puissants, nous avons des menées souterraines qui mettent en danger la science mondiale, je suis heureux de l'apprendre, mais ces braves gens qui sont aussi des salauds savent ce qu'ils font. La technique de l'amalgame permet de discréditer tout un ensemble, tout un mouvement, par exemple le créationnisme, j'allais dire, est par définition catholique. Qu'est-ce que peut être le monde sinon une création, à cause d'éventuels dérapages ou sottises d'autres personnes. Et je ne donne pas d'exemple de sottises ou de dérapages, sinon un que je vais citer et qui concerne un mort, Dieu paix à son âme, donc, et qui ne fera de mal à personne. Mais dans cet article, je pense au courrier des lecteurs de Pour la Science, où il publiait une lettre d'abbé, un abbé, en 1999, novembre 99, un abbé protestant contre leur position scientiste en disant « Vous êtes tous les mêmes, vous avalez des balivernes alors que chacun sait que les peintures des grottes de Lascaux ont été peintes par l'abbé Breuil au début du siècle. » Qu'est-ce que vous voulez répondre à cela? Et ils disent « Voilà la thèse catholique aujourd'hui en l'an 2000. » C'est extrêmement grave. Bien, alors si des sottises obvies. J'en citerai une parce qu'elle a été l'objet d'une plaquette des moines d'Avrier, de moi-même, en collaboration. C'est sur Fernand Crombette, initiateur du Séché, sur lequel je ne porte pas de jugement, je parle du Séché, pas de Crombette, et sa lecture de la Bible à travers le copte. Retraduction intégrale de la Bible comme cachant un texte copte sous l'hébreu, et qui est une monstruosité philologique, en même temps qu'une hérésie, parce que ça revient à dire que le texte de la Bible n'a jamais été compris avant lui. Alors à ce moment-là, ce n'est plus de la science. Or, il prétendait, mort centenaire, il prétendait avoir été le fondateur de la nouvelle science catholique. Là, je pèse mes mots, je suis très sévère. Pour résumer cet aspect de nos origines, je dirais qu'il faut être modeste et prudent, comme l'était d'ailleurs saint Thomas, comme l'était saint Augustin, qui s'interroge déjà longuement sur le sens des premiers jours de la Genèse, n'est-ce pas ? L'état préternaturel d'Adam qui est de foi, le lieu du paradis terrestre, comme le lieu de l'enfer, comme le lieu d'ailleurs des corps ressuscités de notre Seigneur Notre-Dame, peuvent-ils être objets de science ? Même historique, ils échappent à l'expérience sensible et à l'expérimentation. Soyons modestes, soyons humbles. Or, je sens souvent un prurite indiscret dans ces domaines-là, fondé sur la bonne volonté de défendre la Bible. Mais la Bible, j'allais dire, est au-delà des attaques des mécréants arrivés dans ces domaines-là. Alors, pour le Nouveau Testament, maintenant, les choses sont beaucoup plus proches, beaucoup plus simples, beaucoup plus palpables, mais en même temps aussi passionnées, parce qu'il s'agit de la révélation du Seigneur lui-même. Vous savez que nous héritons encore aujourd'hui d'un siècle et demi d'exégèse allemande rationaliste, qui a vu dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, le fruit d'une stratification. Je ne vous apprendrai rien, les évangiles composés au deuxième siècle, voire fin du deuxième siècle, sur des traditions orales qui ont été développées par la conscience populaire croyante avec des greffes et des strates évolutionnistes et qui finalement n'ont plus aucun rapport avec la réalité originelle de Jésus de Nazareth, de Yeshua Notzeri. Et qui revient à dire finalement qu'on ne sait rien du Jésus historique. L'Église a condamné, combattu continuellement cette thèse évolutionniste sur le Nouveau Testament. Mais ce n'est vraiment, j'allais dire, qu'à l'avant-guerre et surtout à l'après-guerre, qu'on possède, j'allais dire, des arguments palpable de la véracité des évangiles, non pas de leur inhérence, encore une fois, qui est en dehors du domaine de la science, j'insiste sur ce point, mais de leur vraisemblance, de leur vérissimilitude par rapport à ce que nous connaissons maintenant du monde judéo-palestinien. Je ferai une remarque incidente. Il ne faut pas non plus se frapper de ce que les gens du 19e siècle aient cru à l'évolutionnisme du Nouveau Testament, comme de l'Ancien Testament, les théories de Wellhausen sur l'hypothèse documentaire, n'est-ce pas, du Pentateuque, les documents éloïstes, les documents yavistes, etc. Ils traitaient de la même manière les textes païens. Au 19e siècle, la chanson de Roland était censée avoir été construite par une création populaire de troubadours sur les routes de France à partir d'un noyau initial. Homère voyait son compte réglé, il n'avait pas existé. L'Iliade et l'Odyssée étaient aussi des créations à la fois populaires et savantes, mais j'allais dire synergétiques. Tout le monde s'y mettant, on obtenait un texte qui, évidemment, ça posait problème, et d'une intelligence, d'une unicité, d'une harmonie psychologique et morale extraordinaire. Mais ça ne les gênait pas. Donc j'allais dire, il y a quand même un phénomène de mode. La science est faite de modes. Il y a des modes continuels dans la science au fil des siècles. Il y avait la mode des humeurs au XVIIe siècle, on en rit maintenant. Eh bien, il y aura eu la mode de l'évolutionnisme et de la création spontanée. Elle est en train de passer. La plupart des universitaires croient à une relative unité de l'Iliade et l'Odyssée. La chanson de Roland, n'est-ce pas, écrite par Turgot, eh bien, pourquoi ne serait-elle pas l'œuvre d'un grand poète ? Alors, nous bénéficions aussi de cette évolution spontanée des choses, indépendamment même des découvertes ponctuelles. Les découvertes ponctuelles, elles existent tout de même. D'abord, ce sont les fouilles israéliennes, et honneur aux savants israéliens, honneur aux savants juifs israéliens, disons-le, moins inamicaux pour nous, hélas, que très souvent le judaïsme de la diaspora. C'est très curieux de voir, c'est leur terre, c'est la chair de leur chair, alors ils sont beaucoup plus libres. Et qu'est-ce qu'ils mettent à jour depuis 40 ans? Ils mettent à jour, eh bien, les ruines du temple. Oh, le mur des Lamentations et son quartier très proche reste un sujet absolument tabou et il n'est pas permis encore d'y toucher. Et qui pourra-t-on y toucher? Bien. Mais on découvre toutes les strates de l'époque archaïque, asmonéenne, maccabéenne, donc hérodienne, romaine. On fait remonter au jour les demeures de grands seigneurs pharisiens ou sadducéens. On touche du doigt ce qu'était la sociologie de l'époque du Christ. Le Nouveau Testament n'est pas prouvé d'emblée sur tel ou tel point. Ça n'a pas d'intérêt à la limite. Mais nous voyons que ça n'est pas une invention d'une communauté chrétienne qui aurait vécu à Rome ou à Corinthe. Il faut avoir été un témoin concret de la géographie palestinienne pour raconter et décrire, n'est-ce pas, la piscine de Siloé. Que l'on a retrouvé pour évoquer le Cénacle, pour évoquer le Saint-Sépulcre, etc., qui aujourd'hui, n'est-ce pas, sont déstratifiés et l'on descend au plus bas. On découvre que dans les lieux saints de Jérusalem, nos lieux saints, le culte a été représenté extrêmement tôt. Dès le premier, les deux premiers siècles, il y a des traces de culte chrétien. Donc, c'est que la tradition est véridique et non mensongère. Prenons des exemples très concrets, très précis. On a découvert quantité de tombeaux, exactement à l'image de ce que nous disent les évangiles, de tombeaux de juifs. Une entrée surbaissée, il faut se baisser pour entrer. Une énorme pierre qu'il faut rouler sur le côté, que des femmes ne peuvent pas rouler. Et une banquette pour mettre le corps. On a découvert au XIXe siècle l'inscription grecque qui interdisait l'entrée au temple des non-juifs sous peine de mort. Et qui est mentionné dans les actes à cause d'un scandale, n'est-ce pas, Paul ayant été accusé d'introduire dans le temple un païen. On a découvert peut-être la tombe de Caïphe, ça reste contesté, mais enfin on a un tombeau où il semblerait bien que Caïpha soit lisible. On a découvert un crucifié juif de la loi juive. Dans la banlieue de Jérusalem, je vous lis quelques lignes amusantes, n'est-ce pas, du Père Puech, l'école biblique de Jérusalem. Les pieds percés par un énorme clou. Hein. Yohanan, fils de Hizkiel, puni par la loi juive, non pas par les autorités romaines, on en est certain. N'est-ce pas? Et ce qui fait dire au Père Puech de l'école biblique de Jérusalem, j'insiste sur ce point, non suspect d'hypertraditionnalisme. Ce témoignage rappelle les récits évangéliques. Les divers témoignages, il invoque des témoignages dans un article complexe, textuel, permettent une meilleure approche des motifs de condamnation de Jésus et la crucifixion, qui n'était pas une punition exclusivement romaine, opposée à la lapidation juive, comme on le dit souvent. Ils ajoutent beaucoup plus de poids que ne le conteste une critique rationaliste à la valeur historique des évangiles. Eh bien, nous avons de l'avenir si l'école biblique se met à être catholique. Dans le domaine philologique aussi, toujours Qumran. Oh, bien sûr, on ne parle pas du Seigneur Jésus à Qumran, malgré les thèses tout à fait marginales et contestables de certains qui n'habitent pas loin. Non, les Esséniens sont bien une secte juive, ce ne sont pas des premiers chrétiens. Mais nous connaissons bien mieux le milieu d'où est sorti le petit noyau de chrétiens que Jean a dû fréquenter en allant au désert, bien qu'il ne fût point certainement lui-même essénien. Des hypothèses plus précises, Annie Jaubert, n'est-ce pas, les années 50-60, a émis l'hypothèse à partir du calendrier essénien qu'on a retrouvé, que la passion du Christ, oh, thèse périlleuse, la passion du Christ s'étalerait du mardi soir au vendredi, et non pas du jeudi soir. Et cela confirmerait peut-être les traditions des tout premiers pères apostoliques et résoudrait un certain nombre de problèmes des synoptiques et de Saint Jean qui se posaient depuis toujours. Là encore une fois, intelligence, fidélité au magistère. Certains, dont je suis, trouvent que la thèse est plus qu'audacieuse puisque la lex orandi, la liturgie, a authentifié en quelque sorte la passion du jeudi au vendredi. Mais après tout, nous ne touchons peut-être pas à un domaine de foi, mais simplement connexe. Et la liturgie n'est pas tenue non plus de refléter l'histoire dans sa littéralité. Marc 7Q5, y a-t-il dans la grotte 7 de Qumran des fragments des évangiles, donc antérieurs à 70? Carsten Peter Tied, La Pensée, le père O'Callaghan, La Pensée, beaucoup de catholiques de tradition le pensent. C'est possible. Ce serait plaisant à croire. D'un autre côté, ce petit morceau de quelques centimètres carrés contient une variante, une leçon qui n'est pas dans les évangiles. Et c'est bien embêtant. C'est un peu comme si Dieu, si vous voulez, c'est le sentiment que j'ai, et j'arrive près de ma fin, jouait à cache-cache. Il donne juste ce qui est nécessaire pour redonner confiance à des gens désespérés, peut-être, mais point trop pour maintenir tout de même l'acte de foi dans sa parole inhérente par essence et non pas accidentellement. Il y a de temps en temps des découvertes extraordinaires dans l'ordre philologique. Par exemple, on a découvert dans les années 1930 une petite inscription qui fait mention d'une juive égyptienne, n'est-ce pas, autour de l'époque du Christ, un petit peu avant l'époque du Christ, qui est morte en couche en mettant au monde son fils Prototokos, son fils premier-né. L'inscription porte en toutes lettres « morte en couche en donnant le jour à son fils premier-né ». Et voilà, balayé par une inscription grecque, tout ce qu'on a pu dire au XIXe siècle sur la prétendue fraternité de Jésus. On peut, évangéliquement, il est normal d'employer le mot « premier-né » même s'il n'y en a pas d'autre, c'est prouvé par l'épigraphie. Et puis il y a toute la quantité de travaux faits, notamment en langue française, par Claude Tresmontant à la suite du Père Carmignac sur le Christ hébreu, le substrat des évangiles. Je n'ai pas compétence pour porter un jugement. Les évangiles ont-ils été, oui ou non, écrits en hébreu avant d'être traduits en grec? La question n'est pas essentielle d'ailleurs. L'essentiel, c'est que des générations de savants maintenant, y compris juifs, je pense par exemple à Mme Jeannot Bismuth qui dirige la section d'études juives à la Sorbonne et qui a écrit notamment un ouvrage d'archéologie, c'est l'archéologie de Jérusalem, en confronté à l'évangile de Saint Jean. Des générations de savants maintenant tiennent finalement pour acquis, même si par amour propre ils ne veulent pas le dire, que nous avons une matière directe, une matière palestinienne issue de cervelles palestiniennes, rédigeant dans une langue au moins formellement sémitique, même si la langue était le grec, et nous sommes habilités à dire que la science actuellement est en train d'opérer un immense revirement dans la vision de nos évangiles. Donc, en conclusion de tout ce que j'ai dit sur l'Ancien Testament, l'archéologie strictement historique, les problèmes de cosmologie, de cosmogonie, pour lesquels, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi des thèses concordistes pour la Genèse qui ne sont pas absolument sottes, n'est-ce pas, sur l'apparition successive de la lumière, des créatures de l'eau, des créatures de l'air, etc. Bon, mais peu importe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu, et c'est ce qui me paraît le plus important, tient l'histoire dans sa main, y compris l'histoire des sciences. Et que nous n'avons pas à avoir peur d'une confrontation de la Bible et de la science. Tout ce qui actuellement sort de terre doit nous réjouir. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre la parole divine et la réalité. Et du coup, il ne faut pas s'exciter, en quelque sorte, il faut attendre que les choses se décantent avec leur temps. La génération des impies, n'est-ce pas, c'est très biblique comme formule, ils tomberont mille à ma droite, mille à ma gauche, elle meurt, elle disparaît. J'ai souvent entendu des abbés, j'allais dire standards, sur des antennes comme Radio Notre-Dame, dire tout uniment et tout bonnement les évangiles rédigés dans les années 50. On n'aurait pas dit cela il y a un siècle. La science progresse et comme et j'en parle pas volontairement, comme pour le Saint-Suaire, ce sont des signes donnés pour notre temps.
Bien, nous remercions Dominique Vien pour son intervention brillante, où il a su nous présenter un tableau captivant sur les problèmes que pose cette connaissance de la Bible d'un point de vue historique, archéologique et des tentatives de compréhension. Son intervention pose beaucoup de questions que l'on ne peut encore actuellement résoudre. C'est là l'intérêt et c'est le but d'un colloque, c'est de faire effectivement des points sur certains aspects et puis de voir comment on peut à partir de là repartir, déblayer ce qui a été fait. Alors, on ne va pas vous frustrer de vos questions, mais compte tenu du temps qui avance, je vais simplement présenter la communication suivante, et puis ensuite nous vous laisserons le temps des questions.
Et je vais laisser la parole maintenant à M. Dominique Vien, qui va nous faire une conclusion donc, de notre colloque.
Monsieur l'abbé Larocque a fait ressentir à son public, après l'excitation intellectuelle de la journée, si j'ose dire, selon les grandes règles de la rhétorique cicéronienne, on termine dans la méditation, la pause, pour intérioriser tout ce qui a été dit. Et de ce point de vue-là, la journée aura été une magnifique réussite. Et d'autre part, il est difficile d'arriver à conclure en faisant la synthèse encore sur le vif de tout ce qui a été dit. Et je crois tout de même avoir trouvé un mot directeur, et ce sera très court, rassurez-vous, quelques minutes. J'emprunte une citation à notre ami Essertel. Rien n'est simple. Ce que je traduirai en langage plus scolastique, distinguo. Et je crois que finalement, si l'on fait le bilan de la journée, tous les orateurs ont distingué continuellement. Et parce que précisément rien n'est simple, et surtout pas dans le combat que nous menons. Si je reprends les différentes allocutions, et je commencerai par Dominique Vien, réservant M. l'abbé Verdet pour la fin. Dominique Vien a essayé de distinguer ce qui était de foi, ce qui était de science, ce qui était l'intangible de la révélation divine, et ce qui était le relatif, le contingent du travail humain. Et par là même, c'est une distinction de la nature et de la grâce, du naturel et du surnaturel qui est faite, et qui n'est pas toujours facile à faire, puisque, me semble-t-il, on l'a montré ce matin, l'extrême nougat du fondamentalisme ou du scientisme, même si les nuances qu'il a apportées n'étaient pas toujours très claires et très limpides. Il n'est pas possible d'envisager la Bible, d'être un exégète ou même un chrétien si l'on ne distingue pas. Avec l'allocution de Bénédicte de Donsure, c'était le même problème. Parmi la foultitude de reliques qui circulent depuis 2000 ans en histoire de l'Église, quelle que soit d'ailleurs la piété qu'elles ont pu susciter partout et dont le bon Dieu seul est juge, le devoir de l'intelligence et de la vérité, c'est de distinguer les vraies des fausses. Et comment les distinguer sur des critères de raison et des critères aussi de foi, bien sûr. Et le Saint-Suaire, dont M. Essertel s'est fait le porte-parole depuis des années, et aussi à travers cette communication, est précisément cette extraordinaire unité de ce qui est distinct, à savoir les souffrances d'un homme, qui est aussi Dieu, d'un objet qui est objet de science dans un ordre, mais témoin de foi dans un autre ordre, puisque c'est la résurrection. Ensuite, Yannick Essertel a suivi la même démarche, finalement, parce que son thème conducteur, son fil conducteur, et qui reste, comme il l'a dit lui-même, à approfondir, à creuser, car c'est une idée très très intéressante et à mon sens vraiment originale. Les persécutions contre notre Sainte Église ont été majoritairement le fait de gens qui ne veulent pas distinguer le règne de César et le règne de Dieu, qui ne veulent pas distinguer les exigences de la nature et les exigences de la foi. Encore une fois, c'est toujours distinguer qui est la marque de l'orthodoxie. Béatrice Brugère, de même, me semble-t-il, dans un aveu d'impuissance par certains côtés, mais cet aveu d'impuissance est un aveu de découverte, nous a dit, substantiellement, il est difficile de distinguer la secte de ce qui n'est pas secte. Il est difficile de faire le distinguo pour définir, et le mot définition est revenu très souvent dans sa bouche, ce qui est erreur de ce qui est vérité, hormis, en dehors de la seule vérité qui est l'Église. Et elle a bien montré, c'est un plaisir d'entendre ça dans la bouche d'une magistrate, elle a bien montré l'embarras des pouvoirs publics laïcs qui font la chasse aux sectes, alors qu'elles ne peuvent pas distinguer une secte. Elles n'en ont pas le pouvoir philosophique, et donc, a fortiori, elles n'en ont pas le pouvoir juridique. L'abbé de Larocque, en terminant cette journée, lui aussi a distingué. Et il a distingué, je crois, d'une manière qui nous appelle à une plus grande charité. Il a distingué au milieu de combats qui pourraient être ingrats, ou qui pourraient manquer à la charité, ou qui pourraient être au contraire naïvement ouverts à toutes les dérives. Il a distingué le bon grain de l'ivraie dans le cœur de prêtres qui ne nous sont pas forcément immédiatement proches. Il y a la foi, nous a-t-il dit, chez des gens qui ne sont pas de notre fraternité. Inversement, il y a le démon dans le cœur d'hommes qui sont déguisés en pasteurs. Et nous devons continuellement distinguer, pour ne pas nous tromper d'adversaires, ne pas nous tromper de futurs amis. Et ce qu'il a dit sur une autre fraternité montre que d'autres prêtres aussi font les distinctions nécessaires pour le bon combat. Et je termine par le début, c'est-à-dire la communication de M. l'abbé Verdet ce matin, qui a aussi distingué, d'une manière toute sacerdotale et spirituelle et théologique, la misère de l'Église, citant Bernanos, la misère de nous-mêmes, notre fatigue, notre lassitude, nos dégoûts, la misère du peuple qui s'amasse sous le porche de l'Église, et la sainteté glorieuse de l'Église qui, elle, est immarcessible, qui ne peut pas être entachée. Et finalement, en dernier instance, si l'on fait le bilan de la journée, nous distinguerons, nous aussi, me semble-t-il, le découragement provisoire d'un combat qui a vu humaine, nos deux pasteurs nous l'ont dit, est un combat désespéré, et la certitude qui est d'un autre ordre, et que nous distinguons bien, nous, qui avons la foi, la certitude de la victoire prochaine.
Alors, nous allons donner la parole sans tarder à Dominique Vien, agrégé de lettres, professeur de lettres dans les environs de Paris, qui s'occupe depuis quelques années donc de l'association des professeurs de lettres de la tradition, et il va nous parler donc de la Bible et la science. Vous savez, pour beaucoup d'entre vous, que depuis plus d'un siècle, l'archéologie, l'histoire a fait d'énormes progrès, des découvertes ont été faites et ont permis d'avancer sur cette connaissance de l'histoire biblique, de l'histoire du peuple hébreu, et dont a permis de faire donc justice d'un certain nombre de légendes sur le fait que la Bible pourrait être un livre de mythes, de choses inventées. En fait, non, c'est, comme on le verra, tout le contraire. Alors, ne connaissant pas l'intervention de mon collègue et mon collègue Dominique Vien, je n'en dirai pas plus, risquant de dire peut-être des bêtises. Donc, je lui laisse la parole tout de suite.